Chapitre 8. Mes premiers succès littéraires. Durant les quelques années immédiatement antérieures à mon mariage, j'avais écrit de courts récits, assez bons pour trouver preneur, au prix infime de 4 livres en moyenne, pas assez pour mériter la réimpression. Ils sont encore aujourd'hui épars dans le London Society, All the Year Round, The Boys Own Paper, qu'ils y dorment en paix. Ils répondaient à leur faim en alléguant un peu le fardeau financier qui pesait toujours sur moi. Je n'en tirais pas plus de 10 ou 15 livres par an, aussi ne me venait-il pas à l'idée d'en vivre. Mais j'y gagnais plus qu'ils ne me donnaient. J'ai gardé de ce temps-là des cahiers où je consignais, sous la forme de notes, les connaissances de toute espèce que j'avais l'occasion d'acquérir. C'est une grave erreur que de débarquer ces marchandises avant d'en avoir beaucoup dans la cale. Une lenteur méthodique et les limites naturelles de mes facultés me préservèrent de ce danger. Il me semble cependant qu'après mon mariage, mon intelligence soit devenue plus vive, que mon imagination et mes moyens d'expression se soient ensemble beaucoup améliorés. La plupart des nouvelles que je finis par réunir dans le Capitaine de l'Étoile polaire datent des années 1885 à 1890. Quelques-unes sont, peut-être, d'un travail aussi honnête que tout ce que j'ai jamais fait. Là où j'éprouvais un plaisir spécial, car pour la première fois, je compris que je cessais d'être un écrivain à la tâche et commençais de me ranger en bonne compagnie, c'est quand James Payne accepta pour le Cornhill ma nouvelle, le récit d'Habacuc Jephson. Je tenais en haute estime cette magnifique revue, dont les traditions vont de Thackeray à Stevenson, et l'idée d'y avoir accédé me fut infiniment plus agréable que le chèque de 30 livres que j'en reçus. Bien entendu, la nouvelle avait paru sans signature, c'est la loi de la maison. Si elle empêche l'écrivain de se faire un nom, elle le protège contre les injures. Un journal, dans sa revue de presse, écrivit en guise d'exorde « Cornhill ouvre son dernier numéro par une nouvelle qui eût fait retourner Thackeray dans sa tombe. Et il se trouva un bon vieux monsieur pour courir me montrer ses lignes encourageantes. » Un autre journal fut plus aimable, il écrivit en effet « Cornhill inaugure l'année par la publication d'un conte très puissant où l'on croirait retrouver la main de l'auteur des nouvelles Mille et une nuits. Mais une louange moins chaude que l'on m'eût directement adressée m'eût satisfait davantage. J'eus bientôt dans Cornhill 2 autres contes, l'amnésie de John Uxford et l'anneau de Thoth. Je forçai en août la solide barrière écossaise du Blackwood avec une nouvelle, La femme du physiologiste, écrite sous l'influence d'Henry James. Mais j'en restais encore aux toutes petites choses. Si petites qu'un journal m'ayant envoyé une gravure sur bois, accompagnée d'une offre de 5 guinées, si je voulais écrire une nouvelle qui s'y accorda, je ne me jugeais pas trop placé pour accepter l'offre. La gravure était très mauvaise, je crois que la nouvelle s'y accorda très bien. Il me souvient que j'en écrivis une autre dont l'action se passait en Nouvelle-Zélande. Pourquoi j'étais allé chercher un pays dont je ne savais rien, c'est ce que je ne conçois pas. Un critique néo-zélandais fit remarquer qu'en situant la ferme dont je parlais à 90 milles est ou ouest de la ville de Nelson, je la plaçais en réalité à 20 milles au large et au fond du Pacifique. C'est l'un de ces menus accidents où l'on s'expose. L'exactitude est parfois nécessaire, d'autres fois, en revanche, l'idée seule importe, une question de lieu ne compte pas. J'étais marié depuis 1 année environ, quand j'en vins à me convaincre que je pourrais continuer toute la vie d'écrire des nouvelles sans avancer d'un pas mes affaires. L'indispensable est d'avoir son nom au dos d'un livre. Par là seulement, on affirme sa personnalité et l'on obtient tout le crédit ou tout le discrédit de l'ouvrage. J'avais sur le métier depuis 1884 un roman d'aventure, La ferme de Girdlestone. Pour la première fois, je m'attaquais à une histoire de longue haleine. Réserve faite de quelques morceaux, c'était une œuvre sans valeur. Comme le premier livre de quiconque n'a pas un génie très original, celui-ci rappelait trop d'autres livres. Je ne pouvais m'en aviser alors, je ne m'en aperçus que trop bien dans la suite. quand je vis avec quel mépris les éditeurs me le retournaient l'un après l'autre, je me rendis à leur opinion et j'envoyai le manuscrit, bien fatigué de ses pérégrinations, à Londres, dormir au fond d'un tiroir. Mais je me sentais mûr pour quelque chose de neuf, de plus solide, de moins gauche. Gaboriau exerçait sur moi une assez forte attraction par sa façon nette de charpenter un drame, et M. Dupin, le magistral policier d'Edgar Poe, était un de mes héros favoris depuis l'enfance. Pouvais-je, aux créations de ces deux auteurs, ajouter la mienne ? Je songeais à mon ancien professeur, Jobel, à sa face d'aigle, à ses procédés bizarres, à sa manière un peu fantastique d'observer le détail. Policier, il eût certainement cherché à rapprocher d'une science exacte une méthode captivante qui demeurait chez lui toute instinctive. Je devais tenter d'y parvenir. Ce qui était possible dans la vie, pourquoi ne le rendrais-je pas plausible dans la fiction ? C'est fort bien que de prêter à un homme toutes les ressources de l'intelligence, encore le lecteur en veut-il des exemples. L'idée m'amusa. Mais comment appeler mon personnage ? Je répugnis à cet art qui fait du nom un signe de caractère et qui invente M. Lematois ou M. Le Furet. Holmes fut Sherinford Holmes avant d'être Sherlock Holmes. Ne pouvant narrer lui-même ses exploits, il devait avoir un camarade, assez neutre pour lui servir de repoussoir, instruit, homme d'action, capable tout à la fois de l'assister dans ses entreprises et de les raconter. À cet homme sans éclat, il fallait un nom gris et tranquille. Watson ferait l'affaire. Ainsi, j'avais mes deux protagonistes. J'écrivis mon étude en rouge. Je savais ce livre aussi bon qu'il pouvait l'être. Quand Girdlestone s'était mise à me revenir de chez les éditeurs, avec la fidélité d'un pigeon pour son pigeonnier, j'en avais été peiné plus que surpris, car je m'expliquais la décision de mes juges. Mais en voyant ma petite histoire de Holmes recommencer les mêmes voyages circulaires, je fus très affecté, car je l'estimais digne d'un meilleur sort. James Payne, tout en la louant, lui trouvait le défaut d'être, en même temps, et trop courte et trop longue, ce qui ne manquait pas de justesse. Arrowsmith, à qui je l'adressais en mai 1886, me la retourna en juillet sans l'avoir lue. Deux ou trois autres, après l'avoir reniflée, me la rendirent. Enfin, comme Ward, Locke et compagnie se faisaient une spécialité de romans populaires, je la leur envoyai. « Cher monsieur, m'écrivirent-ils, nous avons lu votre livre et il nous a plu. Nous ne pourrions le publier cette année, le marché étant inondé de romans à bas prix. Mais si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous le retardions jusqu'à l'an prochain, nous vous paierons pour vos droits d'auteur une somme de 25 livres. Sincèrement à vous, Ward, Locke et compagnie, 30 octobre 1886. » Ce n'était pas une offre bien affriolante. Si pauvre que je fusse, j'hésitais à l'accepter. Je considérais non seulement la modicité de la somme, mais la longueur du délai, quand la publication de mon livre pouvait ouvrir devant moi les chemins. Cependant, les déconvenues que je ne cessais de subir avaient amoindri mon courage et je compris que la sagesse était d'accepter une publication, même tardive. J'acceptai donc la proposition qui m'était faite et mon livre devint l'annuaire Beaton pour la Noël de 1887. Je n'en ai pas eu, depuis, un penny supplémentaire. Comme j'allais devoir attendre longtemps la publication du livre, sentant s'élever en moi de grandes pensées, je résolus d'éprouver au plus haut point mes talents et, pour cela, je m'adressai au roman historique. J'y voyais la seule manière de combiner une certaine dignité littéraire avec ces scènes d'action et d'aventure qui s'imposaient spontanément à l'ardente jeunesse de mon esprit. J'avais eu, toujours, beaucoup de sympathie pour les puritains qui, nonobstant leur petite singularité, représentaient la liberté politique et le sérieux en matière de religion. La fiction et l'art les ont habituellement caricaturés. Macaulay, qui fut en tout temps de mes principaux inspirateurs, les avait seuls rendus compréhensibles, ces sombres guerriers, avec leurs bibles et leurs espadons. On dit quelque part que si, après la Restauration, l'on voyait un charretier plus intelligent que les autres ou un paysan qui cultivait mieux son champ, il y avait des chances pour que l'on découvrît chez lui un ancien piquier de Cromwell. C'est l'idée de mon Mick à Clerc où je me laissais franchement aller sur la grande voie romanesque. Je possédais bien mon sujet, mais le détail me coûta quelques mois d'études, après quoi j'écrivis très rapidement le livre. Il y a là des pages telles que la description de la famille puritaine ou le portrait du juge Jeffrey, égales aux meilleures qui soient jamais sorties de ma plume. Le livre terminé, au début de 1888, j'en conçus de beaux espoirs et je le mis en route. Hélas, ma petite histoire de Holmes avait déjà paru. Elle n'avait suscité que peu de commentaires favorables. Toutes les portes me semblèrent de nouveau fermées. James Payne fut le premier qui jeta un coup d'œil sur Mick à Clerc. Sa lettre de refus débutait ainsi. « Comment pouvez-vous gaspiller votre temps et votre intelligence à écrire des romans historiques ?» C'était bien décourageant après une année de travail. Vint ensuite le verdict de Bentley. Ce roman, à notre avis, manque de la qualité dont peut le moins se passer une œuvre d'imagination, l'intérêt. Nous ne pensons pas que, dans ces conditions, il puisse jamais avoir pour lui ni le grand public, ni les cabinets de lecture. Ce fut ensuite au tour de Blackwood. Il y a là des imperfections qui s'opposeraient au succès. Les chances d'un succès populaire ne paraissent pas assez fortes pour nous garantir contre les risques de la publication. D'autres se montrèrent encore plus sévères. J'étais sur le point de reléguer mon manuscrit, déjà tout délabré, au même hôpital que son misérable frère Girdlestone, quand je l'envoyai à Longmans, dont le lecteur, Andrew Lang, Andrew aux chevaux mouchetés, comme l'appelait Stevenson, l'aima et conseilla son acceptation. C'est à lui, je ne l'oublie pas, que je dois d'avoir vraiment percé. Le livre parut en février 1889. S'il ne fit pas un éclat, il eut une presse extraordinaire, notamment et d'abord un article tout entier de M. Protero dans le 19th Century. Il n'a depuis cessé de se vendre. Il fut la pierre angulaire d'une quasi-réputation d'écrivain. La littérature anglaise jouissait d'une vogue énorme aux États-Unis pour la raison que le copyright n'y protégeait pas encore la propriété littéraire. C'était dur pour nous, et plus encore pour les Américains, exposés par là à une concurrence désastreuse. Comme toutes les fautes nationales, celle-ci entraînait sa punition, et pour les écrivains du pays, qui en étaient innocents, et pour les éditeurs eux-mêmes, car ce qui appartient à tout le monde n'appartient en fait à personne, et ils ne pouvaient éditer honorablement un ouvrage sans qu'il en parût aussitôt une autre édition à bon marché. J'ai vu quelques-unes des premières éditions qu'on a tirées de mes livres en Amérique. On les dirait imprimées sur du papier, comme on emploie les commerçants pour trousser leurs marchandises. À mon point de vue, toutefois, le régime américain avait ceci de bon, que, grâce à lui, l'auteur anglais se faisait rapidement connaître, si bien qu'il avait déjà l'audience du public le jour où fut promulgué l'acte du copyright. Mon livre sur Holmes avait rencontré là-bas une certaine faveur. Un agent de Lippington, se trouvant à Londres, manifesta le désir de causer et de traiter avec moi pour une nouvelle publication. Inutile de dire qu'en la circonstance, je donnai congé pour 24 heures à ma clientèle et courus au rendez-vous. Jusqu'alors, je n'avais abordé qu'une fois les milieux littéraires. C'était au moment où Cornhill s'était transformé en journal illustré, idée d'ailleurs malheureuse, à laquelle il dut promptement renoncer. L'événement fut célébré par un dîner au Ship à Greenwich. J'y fus invité comme collaborateur. Tous les écrivains et artistes du temps figuraient au nombre des convives. Avec quelle émotion j'approchai de James Payne, gardien du seuil sacré. Arrivé de bonne heure, je lui fus présenté par le chef de la maison, M. Smith. Je goûtais beaucoup son œuvre et j'attendais avec une crainte révérentielle le premier mot qui tomberait gravement de ses lèvres. « Ah ça » dit-il, « d'où vient qu'il y ait un carreau fêlé à la fenêtre ?» J'eus ensuite l'occasion de connaître qu'il était le meilleur et le plus spirituel des hommes. je me trouvai à table près d'Ansté, qui venait d'obtenir un succès très marqué avec son Vice-Versa. Je fus encore présenté à diverses célébrités. En revenant chez moi, j'avais des ailes. Mon déjeuner avec l'Américain Stoddart, agent de Lippington, fut le deuxième de l'ordre littéraire. Stoddart me parut un excellent garçon. Il y avait deux autres convives, Gilles, un Irlandais très amusant, membre du Parlement, et Oscar Wilde, déjà fameux comme champion de l'esthétisme. Je passai une soirée d'enchantement. À ma profonde surprise, Wilde avait lu Micah Clerk, dont il me parla avec enthousiasme, de sorte que je ne me sentis pas tout à fait un étranger devant lui. Sa conversation m'a laissé un souvenir ineffaçable. De si haut qu'il nous domina, il avait l'art de paraître s'intéresser à tout ce que nous disions. Il joignait le tact à la délicatesse des sentiments. Un homme qui réduit la conversation à un monologue n'est jamais dans le fond, quelle que soit sa valeur, un gentleman. Wilde prenait autant qu'il donnait, mais ce qu'il donnait était unique. Sa parole, d'une précision curieuse, dégageait un humour subtil, et il avait, pour en illustrer le sens, tout un système particulier de menus gestes. Je n'en saurais reproduire les faits, mais, par exemple, parlant des guerres futures, il disait « De chaque côté de la frontière, un chimiste s'approche, armé d'une petite bouteille. » Et sa main levée, son visage expressif, suscitait à vos yeux un tableau vivant et grotesque. Ces anecdotes étaient d'une piquante singularité. Comme nous discutions la comique maxime qui veut que le bonheur de nos amis nous rende malheureux, « Un jour, raconta-t-il, le diable, traversant le désert de Libye, arriva en un lieu où de petits démons tentaient un saint ermite. L'homme de Dieu repoussait aisément leurs suggestions malignes. Voyant leur insuccès, le diable s'approcha d'eux. « Vous ne savez pas vous y prendre, leur dit-il, laissez que je vous enseigne. » Et il murmura au saint homme, « Ton frère vient d'être fait évêque d'Alexandrie. » Un nuage de jalousie assombrit instantanément le front serein de l'ermite. « Voilà, conclut le diable, le genre de moyen que je vous recommande. » Le résultat de notre rencontre avec Stoddart fut que Wilde et moi nous engageâmes à écrire, chacun de notre côté, un livre pour le Lippington's Magazine. Wilde y publia le portrait de Dorian Gray, œuvre située sur le plan moral très élevé, et j'y donnai moi-même la marque des quatre où Sherlock Holmes faisait sa deuxième apparition. Je dois ajouter que, pas une fois, dans la conversation de Wilde, je ne vis trace d'une pensée grossière et qu'en aucun temps je n'ai pu en concevoir chez lui la possibilité. Je ne le revis qu'une fois, bien des années plus tard, et il me donna l'impression d'être fou. Il me demanda si j'avais vu l'une de ses pièces qui se jouait dans le moment. Je lui répondis que non. « Eh bien, il faut que vous alliez la voir, me dit-il. C'est une merveille, une œuvre de génie. » Cela du ton le plus sérieux. Rien ne ressemblait moins à son premier naturel d'homme bien élevé. Je pensais alors, je continue de penser, que la monstrueuse transformation survenue chez lui pour son malheur était toute pathologique et que son cas relevait de l'hôpital plus que des tribunaux. Quand parut son livre, je lui en écrivis mon sentiment. La lettre par laquelle il me répondit mérite d'être reproduite. J'en nommai le début, où il me parle, en termes trop généreux, de mon œuvre personnelle. Entre la vie et moi, il y a toujours un brouillard de mots. Pour l'amour de la phrase, je jette la probabilité par la fenêtre. La chance d'une épigramme me fait déserter la vérité. Pourtant, je vise à faire œuvre d'art, et c'est pour moi une joie réelle que vous trouviez ma façon de traiter le sujet subtile et artistiquement heureuse. Les journaux me semblent écrits par des gens qui ont la démangeaison du philitinisme. Je ne puis comprendre qu'ils taxent Dorian Gray d'immoralité. Le difficile était que la morale inhérente y resta subordonnée à l'effet artistique et dramatique, et je persiste à la trouver trop évidente. Encouragé par l'accueil bienveillant que Micah Clerk avait reçu de la critique, je formais un dessin encore plus audacieux. Les jours d'Édouard III constituaient à mes yeux la plus grande page de l'histoire d'Angleterre. C'était le temps où le roi de France et le roi d'Écosse étaient tous deux prisonniers à Londres. Le mérite en revenait surtout à une troupe d'hommes réputés dans toute l'Europe, mais qui jamais n'avaient eu dans notre littérature une représentation fidèle. Sans doute Walter Scott avait tracé un portrait inimitable de l'archer anglais, mais il en avait fait un hors-la-loi plutôt qu'un soldat. J'avais en outre sur le Moyen-Âge des idées à moi que je grillais de mettre en lumière. Froissart et Chaucer m'étaient familiers, je savais que les illustres chevaliers de jadis ne ressemblaient en rien aux athlétiques héros de Scott qu'ils relevaient d'un tout autre type. Par là s'expliquent mes deux livres, La Compagnie Blanche, écrit en 1885, et Sir Nigel, écrit 4 ans plus tard. Tout en considérant ce dernier comme le meilleur, je n'hésite pas à dire que, pris ensemble, il répondait de tout point à mes intentions, qu'ils composaient le tableau très exact d'un grand siècle et qu'ils sont ce que j'avais fait de plus ambitieux, de plus satisfaisant et de plus complet. Toute chose trouve son niveau. Je crois pourtant que les histoires de Holmes ont nuit à la meilleure partie de mon œuvre et que, sans elles, j'occuperais dans les lettres une plus haute place. Les deux livres me coûtèrent de longues recherches. J'en ai gardé la documentation, elle emplit des carnets. Attaché à la simplicité du style, j'évite avec soin les grands mots. Peut-être le lecteur, trompé par cette aisance apparente, aura-t-il sous-estimé la somme de renseignements que contiennent mes romans historiques. Mais la justice a toujours son heure et le vrai mérite d'un ouvrage n'est jamais définitivement perdu. Je me souviens que, lorsque j'eus écrit les derniers mots de la Compagnie Blanche, je fus saisi d'un tel transport que je m'écriai « Fini !» et que je lançai ma plume au travers de la chambre où elle alla faire un gros pâté contre la muraille sur le papier jaune d'œuf. Je savais, en mon fort intérieur, l'ouvrage destiné à vivre et à illuminer nos traditions nationales. Aujourd'hui, qu'il a eu 50 éditions, je reconnaîtrai, sans fausse modestie, que mes prévisions se sont réalisées. Ce fut là mon dernier livre du temps où je professais la médecine à Southie. Il marque une époque de ma vie. Je puis donc revenir aux quelques événements qui signalèrent encore mon séjour à la Villa du Buisson avant l'heure où je me lançais dans une nouvelle existence. J'ajouterai seulement que la Compagnie Blanche fut acceptée par Conhill malgré les préventions de James Payne contre le roman historique. Un autre de mes rêves s'accomplissait par la publication en feuilleton dans le célèbre magazine. Vers cette même époque, un changement se produisit dans mon état de médecin. Je me trouvais tout à coup faire partie de l'armée anglaise. Les opérations militaires d'Orient, ayant éprouvé le corps de santé, on décida l'enrôlement de médecins civils pour un service temporaire de quelques heures par jour. L'appât d'une guinée quotidienne tenta un bon nombre d'entre nous, alors qu'il n'y avait que peu d'emplois disponibles. Un homme d'aspect sauvage présidait le conseil de révision devant lequel je comparus. « Et vous, monsieur, aboya-t-il en me voyant, qu'êtes-vous prêt à faire ?»« Tout, lui répondis-je. » Les candidats précédents avaient dû marchander, s'entourer de réserves. La spontanéité de ma réponse enleva le morceau. Je pus, dès lors, faire plus ample connaissance avec l'homme d'aspect sauvage. Il n'était autre que Sir Anthony Home, décoré de la Victoria Cross pour ses services dans l'Inde à l'époque de la révolte. Il avait la haute main sur le corps de santé. Farouche dans la parole et dans l'acte comme dans l'apparence, il terrorisait tout le monde. J'avais, une fois, confié une extraction de dents à un auxiliaire et je m'en revenais chez moi quand je fus rejoint par un soldat très excité. « Le sergent Jones, me dit-il, allait passer en conseil de guerre et certainement perdre ses galons pour avoir fait une petite opération chirurgicale. » Je rebroussai immédiatement chemin et trouvai Sir Anthony qui regardait d'un œil enflammé le malheureux sergent, tandis que d'autres hommes, rangés en cercle, attendaient leur tour. Sir Anthony reporta sur moi le feu de son regard quand je lui dis que le sergent n'avait fait qu'obéir à mon ordre. Il grommela, referma violemment la porte qu'il tenait ouverte et leva la séance. Il semblait un être des plus difficiles. Pourtant, lorsque, peu de temps après, je me mariai, il m'envoya un mot charmant pour m'exprimer ses vœux. La surprise m'en fut d'autant plus agréable qu'auparavant, je n'avais connu de lui que le froncement de ses épais sourcils. Bientôt, les circonstances s'améliorant, les médecins civils furent rendus à leur foyer.